Chapitre 4. L'horloge. Comme nous montions l'escalier, M. Pickwick mit ses besicles, qu'il avait tenues à la main jusqu'ici. Il donna un dernier coup d'œil à sa cravate, tira son gilet par le bas, et se livra à une quantité de ces petits préparatifs que nous n'oublions guère quand nous allons nous trouver pour la première fois devant des étrangers que nous désirons impressionner favorablement. Me voyant sourire, il sourit également et me dit que si l'idée lui en était venue avant de sortir de chez lui, il se serait certainement présenté en bas de soie et en escarpin verni. « Je l'aurais fait, cher monsieur, me dit-il très sérieusement, oui, je l'aurais fait. Comme preuve de mon respect pour ces messieurs, j'aurais enlevé mes guêtres. »« Oh, soyez assurés, répliquai-je, qu'ils les eussent regrettés. » « Non, vraiment, fit-il avec une joie manifeste, vous croyez qu'ils s'occupent de mes guêtres? Vous croyez sérieusement qu'ils vont me reconnaître à mes guêtres ?»« J'en suis persuadé, répondis-je. » « Allons, tant mieux, dit Monsieur Pickwick, rien ne pouvait m'être dit qui me fût plus agréable et me charma davantage. » Je n'aurais pas noté cette courte conversation si elle ne m'avait révélé dans le caractère de M. Pickwick un détail que j'ignorais encore. Il avait une secrète fierté de ses jambes. La manière dont il prononça cette dernière phrase, en l'accompagnant d'un coup d'œil complaisant sur son pantalon collant, me prouva qu'il tirait, bien innocemment, une certaine vanité de cette partie de son individu. « Mais voici nos amis, » dis-je en ouvrant la porte et en lui prenant le bras. « Ils vous le diront eux-mêmes. Messieurs, je vous présente Monsieur Pickwick. » Monsieur Pickwick et moi, nous devions alors faire un contraste piquant. Moi, tranquillement appuyé sur ma canne à béquille, avec ma figure calme et résignée, lui me tenant le bras et saluant à la ronde avec la politesse la plus élastique, tandis que son visage exprimait une extrême bonne grâce et la plus joyeuse bonne humeur. La différence entre nous dut s'accentuer encore lorsque nous nous dirigeâmes vers la table et que l'aimable homme, réglant son pas sur ma misérable démarche, s'appliqua à traiter mon infirmité avec les plus grands égards, tout en paraissant ignorer absolument qu'elle en mérita. Je le présentai individuellement à chacun de mes amis, l'un après l'autre, d'abord au sourd qu'il regardait avec infiniment d'intérêt et qu'il aborda avec une franche cordialité. Je suis persuadé qu'il eut l'idée que, mon ami étant sourd, il devait aussi être muet, car lorsque ce dernier ouvrit la bouche pour exprimer le plaisir qu'il avait à faire la connaissance d'un homme dont il avait tant entendu parler, M. Pickwick fut si déconcerté que je dus venir à son secours. La rencontre avec Jack Redburn fut réellement un spectacle à voir. Monsieur Pickwick sourit, lui serra la main, l'examina à travers ses besicles et par-dessus aussi. Il hocha la tête d'un air approbateur, se tourna vers moi et hocha de nouveau la tête comme pour me dire « Ah, c'est bien là l'homme, vous étiez dans le vrai ». Quant à Jack lui-même, il était aussi enchanté de Monsieur Pickwick que Monsieur Pickwick pouvait l'être de lui-même. Depuis que le monde est monde, on n'a certainement jamais vu deux hommes s'aborder avec plus de chaleur et d'enthousiasme. L'entrevue entre M. Pickwick et M. Miles fut plus froide. Évidemment, le dernier de ces deux messieurs considérait le nouveau membre comme une sorte de rival dans les affections de Jack Redburn. De plus, il m'avait plusieurs fois exprimé en secret que, tout en ne doutant pas que M. Pickwick fût un homme parfaitement honnête, il trouvait néanmoins certaines de ses aventures incompatibles avec la dignité d'un homme de son âge et de sa gravité. Ces diverses causes motivèrent de sa part un accueil froid et compassé auquel M. Pickwick répondit avec un air de défi, empreint d'une telle majesté que j'eus peur que cela n'allât plus loin et que je m'empressai de le conduire à son fauteuil. Cette manœuvre stratégique fut couronnée d'un plein succès. En s'asseyant, M. Pickwick nous examina tous à la ronde avec la plus parfaite bienveillance et esquissa aussitôt un sourire qui demeura sur ses lèvres pendant 5 bonnes minutes. Nos petites cérémonies paraissaient l'intéresser vivement. À vrai dire, elles ne sont ni longues ni compliquées, et l'exposé en sera bientôt fait. Les compliments terminés, on passa, au milieu du plus grand silence, au remontage de l'antique et vénérable horloge qui a donné son nom à cette réunion. Cette cérémonie est invariablement accomplie par maître Humphrey en personne. Je me permets dans mon récit d'adopter le style de l'historien et de parler de moi-même à la troisième personne. Maître Humphrey, pour cela, monte sur une chaise, il est armé d'une grande clé. Pendant qu'il est ainsi occupé, Jack Redburn est prié de se tenir dans le coin le plus éloigné de la chambre, sous la surveillance particulière de Monsieur Miles. On lui connaît en effet certaines pensées ambitieuses et profanes au sujet de l'horloge, dont il a même osé prétendre qu'il pourrait perfectionner le mouvement si on le lui confiait un jour ou deux. Nous lui pardonnons cette prétention en faveur de l'intention, qui est bonne, mais comme châtiment, nous exigeons absolument qu'il se tienne ainsi à distance respectueuse, de peur qu'il ne blesse l'objet de notre vénération dans quelque organe sensible, et que, dans l'ardeur de son zèle à perfectionner le dit objet, il ne nous plonge dans la douleur et la consternation. La cérémonie suivante consiste à ouvrir le coffre de l'horloge, dont la clé reste également aux mains de maître Humphrey, à en retirer autant de rouleaux de papier qu'il en faut pour occuper notre soirée, et à serrer dans cette cachette les nouveaux manuscrits rassemblés depuis la dernière séance. Cette partie du programme est toujours entourée d'une solennité particulière. Enfin, le sourd bourre sa pipe, l'allume, et nous nous asseyons autour de la table dont il a déjà été parlé. Maître Humphrey préside, si on peut dire que nous avons un président, puisque nous sommes tous sur pied d'égalité parfaite, et notre ami Jack remplit les fonctions de secrétaire. Nos préliminaires étant ainsi terminés, nous nous mettons à causer sur le premier sujet venu, ou bien nous procédons immédiatement à l'une de nos lectures. Dans ce dernier cas, le manuscrit choisi est confié à maître Humphrey, qui l'étale soigneusement sur la table et corne le coin supérieur de chaque page de façon à pouvoir les tourner facilement. Jack Redburn coiffe la lampe d'un petit appareil de son invention, dont l'effet est de l'éteindre 9 fois sur 10, ce qui n'empêche pas Monsieur Miles de le considérer avec un air de vive approbation. Le sourd approche sa chaise, de manière à suivre à son gré la lecture, soit sur le papier, soit sur les lèvres de maître Humphrey, et maître Humphrey, promenant autour de lui un regard de profonde satisfaction, lance un coup d'œil à sa vieille horloge et commence sa lecture à haute voix. L'expression de Monsieur Pickwick, pendant que je lisais son histoire, aurait attiré l'attention de l'homme le moins observateur du monde. Le balancement complaisant de sa tête, de son index, battant doucement la mesure et semblant mettre dans le vide une ponctuation imaginaire, le sourire qu'ébauchaient ses traits à chaque passage plaisant et le fin regard qu'il lançait à la ronde pour en observer l'effet, sa façon calme de fermer les yeux et de prêter l'oreille quand arrivaient quelques petites descriptions, la mobilité d'expression de ses traits tandis qu'il se récitait le dialogue à lui-même, sa terreur que le sourd ne sût pas de quoi il s'agissait, son anxiété extraordinaire à corriger le lecteur quand il hésitait devant un mot du manuscrit ou qu'il en prenait un pour un autre, tout cela était véritablement à peindre. Et quand à la fin, après avoir essayé de communiquer avec le sourd au moyen de l'alphabet des sourds-muets, dont il se servit pour forger des mots inconnus dans toutes les langues barbares ou civilisées, quand après cela il prit une ardoise sur laquelle il écrivit en grosses lettres, en mettant un seul mot par ligne, « Cela vous plaît-il ?» Quand il eut passé l'ardoise au sourd par-dessus la table et qu'il attendit sa réponse, l'œil brillant d'émotion, Monsieur Miles lui-même s'attendrit et ne put s'empêcher de le regarder avec un sympathique intérêt. Lorsque nous nous séparâmes, Monsieur Pickwick me prit à part pour me dire combien il avait passé une charmante et délicieuse soirée. Quand il m'eut fait cette communication de l'air le plus discret et le plus mystérieux, il emmena Jack Redburn dans un autre coin pour lui dire la même chose. Après quoi, il s'en alla dans un troisième coin avec le sourd et l'ardoise pour lui faire également part de son impression. Ce fut amusant d'observer la lutte qui se fit dans sa cervelle pour décider s'il étendrait sa confiance à M. Miles ou s'il le traiterait avec une froideur pleine de réserve. Une demi-douzaine de fois, au moins, il arriva jusque derrière son dos, la bouche en cœur. Une demi-douzaine de fois, il battit en retraite sans avoir prononcé un mot. Enfin, comme il était tout près de l'oreille de notre collègue et qu'il ouvrait littéralement la bouche pour lui murmurer quelques paroles conciliantes et amicales, brusquement, M. Miles retourna la tête, M. Pickwick fit alors un pas en arrière et lui dit fièrement « Bonsoir, monsieur, j'allais vous dire bonsoir, monsieur, rien de plus. » Puis il le salua et lui tourna le dos. « Allons, Sam !» appela M. Pickwick en descendant l'escalier. « Voilà, monsieur, » répondit M. Weller. « Tenez bien, monsieur. Allons, hop, le bras droit, hop, le bras gauche. Allons, un bon coup de rein à présent, et v'là le paletot de monsieur qui est tout mis. » M. Pickwick se conforma à ses instructions, aidé de Sam qui tirait son collet à droite, de M. Weller qui le tirait ferme à gauche, il fut bientôt enveloppé dans son pardessus. M. Weller père alors alla chercher une énorme lanterne d'écurie qu'il avait soigneusement déposée dans un coin en arrivant et demanda à M. Pickwick s'il fallait allumer. « Je pense que c'est inutile pour ce soir, » dit M. Pickwick. « Alors, » répliqua M. Weller, « si cette dame ici veut bien le permettre, nous allons la laisser là, toute prête pour notre prochaine visite. « Cette lanterne-là, ma'am, » continua-t-il, en tendant l'objet à la gouvernante, « appartenait dans les temps au fameux Bill Blinder, qui repose à cette heure à 6 pieds sous terre. Comme ça nous arrivera un jour à tous. Ben, madame, c'était l'aubergiste qui avait soin des deux chevaux, qui était si connu qu'il traînait le coche de Bristol et qu'il voulait aller sur l'air, vent au sud, sombre nuage. » Si bien que le conducteur était obligé de chanter cette chanson-là tout le temps quand c'était à une marchée. Donc, un jour, il y avait quelque temps qu'il ne mangeait pas et qu'il ne sentait plus solide sur ses jambes, v'là mon Bill qui se trouve très malade. Il dit à sa femme, « Ma femme, » qui lui dit, « je crois que je descends la grande descente, je suis plus loin de la grande culbute. » Il ne dit pas non, qu'il dit, « je sens bien que si, et je veux pas être dérangé, » qu'il dit, « je vais aller à l'écurie écrire mes dernières volontés et mon testament. » « Je ferai attention qu'on ne te dérange pas, » lui répond sa femme. « Mais tu n'aurais qu'à relever un peu le nez, et à secours des oreilles, je t'aurai encore bien pour 20 ans. » Bill Blinder ne lui répondit pas, il descend à l'écurie, il s'installe entre les deux chevaux pis, et puis il rend le dernier soupir, non sans avoir écrit sur le coffre à avoine, « Ceci est la dernière volonté et le testament de William Blinder. » Naturellement, tout le monde fut bien étonné. On chercha dans la litière, dans le grenier, partout, quoi, on ne trouve rien. Enfin, on découvre qu'il avait écrit son testament à la craie en dedans du couvercle du coffre à avoine, si bien qu'on fut obligé de le desserrer, le couvercle, pour aller le faire enregistrer, le testament, au Doctor's Common. Et de par cette dernière disposition, cette lanterne a passé aux mains de Tony Weller. Aussi, de cette affaire-là, j'y attache un grand prix. « Vous comprenez, et c'est pourquoi, ma'am, je vous prie de vouloir bien avoir l'obligeance d'en avoir grand soin. » La ménagère promit gracieusement à M. Weller de veiller tout particulièrement sur l'objet de sa sollicitude, et M. Pickwick, le visage toujours souriant, prit congé de moi. Ses gardes du corps le suivirent, le flanquant l'un à droite, l'autre à gauche. Le vieux monsieur Weller, boutonné, entortillé, depuis ses bottes jusqu'au menton, Sam, les mains dans ses poches, le chapeau en arrière, grondant son père et s'en allant, le chapitrant sur son extrême loquacité. En revenant du côté de l'escalier, je ne fus pas peu surpris de rencontrer, si tard dans le couloir, le barbier, qui d'habitude ne venait passer chez moi qu'une demi-heure chaque matin. Mais Jack Redburn, qui, par instinct, je crois, devine tout ce qui se passe dans la maison, m'apprit avec une joie immodérée que, le soir même, on avait fondé à la cuisine une société à l'imitation de la nôtre sous le nom de « La montre de M. Weller » et que le barbier en faisait partie. Il m'assura qu'il pouvait trouver un moyen de me tenir au courant de tout ce qui s'y passerait. Je le suppliais de n'y pas manquer, tant pour mon édification personnelle que pour celle de mes lecteurs.